Cap et Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap et Cap avec
Rachida Lucaso.
Ça y est, la première loi sur l'égalité salariale homme-femme est entrée en vigueur au 1er janvier de cette année, une stricte égalité avec des amendes à la clé pour les récalcitrants. Fabuleux, non ? Oui, mais je ne vous ai pas tout dit, ce n'est pas en France, c'est en Islande. Oh, ce n'est pas que la France n'ait pas légiféré en la matière avec le fameux principe à travail égal, salaire égal, nous ne manquons pas de lois. À commencer d'ailleurs par le traité de Rome de 1957 qui affichait clairement ce principe. Mais vous le savez, plus il y en a de ces lois, moins elles sont appliquées. Et si on en fait d'autres, c'est justement parce que les premières ne sont pas appliquées. Malheureusement, les suivants ne le sont pas non plus. Françoise Héritier, qui nous a quitté récemment, l'a dit, et je la cite, « L'inégalité entre les sexes n'est pas un fait de nature ». Belle formule, mais qui peine à trouver une application pratique au quotidien, surtout quand on sait que l'écart de salaire moyen entre hommes et femmes se situe à peu près à 24%, ce qui est considérable. Nous vivons toujours sur des schémas culturels anciens pour lesquels le travail de la femme est finalement secondaire, une espèce d'appoint pour la famille, un travail qui de ce fait n'a pas à être rémunéré comme celui de l'homme. Et c'est ainsi dans les entreprises, même dans les jeunes et dynamiques start-up, vous remarquerez qu'elles sont essentiellement composées d'hommes. Et la fonction publique n'échappe pas à cet état de fait. Regardez entre autres la composition des cabinets ministériels. Prenons deux élèves de l'ENA, eh bien l'homme avancera toujours plus vite et plus loin qu'une femme. Moralité, les hommes sont au pouvoir et ils nomment leurs semblables. Notre pauvre vieux pays, lui qui à une époque malheureusement lointaine, a bouleversé le monde et lui a offert des concepts intellectuels aussi novateurs que révolutionnaires, est retombé dans sa léthargie, dans une espèce d'apathie intellectuelle, où il continue à brandir ses lambeaux de gloire passée sans ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, sans tenter d'évoluer. La régression n'est pas loin. Rendez-vous compte, nous sommes dans un pays où depuis un demi-siècle, non seulement les femmes sont plus instruites et plus diplômées que les hommes, mais où elles constituent près de la moitié de la population active. Et pourtant, rien n'évolue en fait de parité salariale, puisqu'en présence d'un travail égal, il n'y a jamais de salaire égal. Et les diplômes, même s'ils sont strictement identiques, seront toujours plus prisés et payés s'ils sont détenus par un homme. Et tout cela, voyez-vous, n'a jamais changé, quel que soit le parti au pouvoir, qu'il soit de droite ou de gauche. Là où l'on attendait cette dernière, la gauche bien évidemment, qu'a-t-on vu ? Eh bien rien, le désert. Et force est de constater que pour le Parti socialiste, longtemps au pouvoir, même s'il n'en a quasiment rien fait de ce pouvoir, au moins dernièrement, le bilan n'est pas meilleur. D'ailleurs, tous ces hommes politiques se parfumant de l'étiquette de gauche ont continué de faire leurs petites affaires et leurs courses aux honneurs, places et prébendes, comme si de rien n'était. On a vu le résultat, à savoir les effets de ce que l'on appelle le dégagisme, qui pourrait aussi se nommer, ma foi, un grand coup de pied au cul, assez bienvenu. Et c'est tout de même curieux, alors que tout le Landerneau est agité fort justement par l'avortement, le viol ou le harcèlement sexuel, la question du travail ne soit pas posée, comme si finalement elle était logique et tolérable, comme si solidité, compétence, fiabilité restaient l'apanage des hommes. Nous avons encore beaucoup de travail pour que notre pays devienne ouvert, moderne et égalitaire, et il ne faut certainement pas compter, ou pas que, sur les politiques de tout poil pour y parvenir. Cela étant dit, nous recevons ce jour sur Esprit Occitanie une femme politique, une femme élue, et je pense que ce que je viens de dire ne va pas la laisser indifférente, et peut-être que, comme j'ai accroché quand même le parti qu'elle représente, puisque je crois, Rachida Lucaso, que vous êtes au Parti Socialiste, j'imagine que vous avez envie de me répondre quelque chose. Bonjour quand même, je ne vous l'avais pas encore dit.
Bonjour Jacques Lavergne. Bon, et je salue également vos auditeurs. Vous avez rappelé un certain nombre de choses. En fait, c'est un fait qui va à l'encontre du principe républicain, tout ce que vous venez de décrire. Et le XXe siècle a été celui, bien évidemment, du combat des femmes pour acquérir et le droit de vote et le droit de travailler. Le XXIe siècle, je pense, doit être le siècle, enfin, j'espère, dans quelque temps, celui de l'égalité des salaires, comme vous venez de le dire, celui de l'égalité des salaires et de l'application stricte de la loi à travail égal, salaire égal. Et c'est en 2017, à poste équivalent, vous l'avez rappelé, les femmes gagnent 24% de moins que les hommes. Elles sont minoritaires dans plusieurs domaines, que ce soit dans le sport, les médias, dans l'entrepreneuriat, au niveau également de la culture. Et l'actualité brûlante nous rappelle chaque jour que le chemin est très très long. Les entreprises comme les collectivités locales sont concernées et nous, la région Occitanie, sous l'impulsion de sa présidente Carole Delga,
qui est une femme,
et nous sommes heureux que ce soit elle, la région Occitanie a mis en place le premier plan d'action régional 2017-2021 pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et ce plan se structure autour de deux axes majeurs, progresser vers une égalité réelle en intégrant ces enjeux dans les politiques régionales. Des actions prioritaires, et elles sont au nombre de 15, œuvreront pour ces engagements sur les domaines d'intervention de la région. Mais il s'agit également de regarder et d'améliorer ce que nous faisons en interne. C'est le deuxième axe, poursuivre l'exemplarité de la région. La région Occitanie a décidé de faire une place centrale à l'égalité femmes-hommes dans son fonctionnement également interne. Et ça, c'est très important.
Ça veut dire qu'au sein du conseil régional, on va avoir la parité des salaires entre les fonctionnaires de la collectivité ?
Complètement.
Ce n'est pas déjà le cas ?
Et la présidente y tient et s'est mise en œuvre depuis quelques mois.
Bon, donc elle est toute seule, donc elle ne peut pas être comparée à un homme puisque c'est la seule présidente. Mais est-ce que vous, par exemple, qui êtes élus, j'imagine que vous avez quelques émoluments, même s'ils ne sont pas très importants, est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes ?
Ce sont les mêmes.
Et ça a toujours été les mêmes ?
Je vous le confirme. Ce sont les mêmes.
Alors comment vous...
Une femme gagne autant qu'un homme.
Et un homme autant qu'une femme. Comment, voilà. Comment vous vous situez par rapport avec à vos collègues masculins ? Ou plutôt, on va poser la question autrement. Quelle est leur attitude vis-à-vis de vous ? Quelle est leur perception des femmes en politique ? Au niveau de notre conseil régional, puisque c'est quand même de là que vous êtes issu. On ne l'a pas dit, on va le découvrir, mais alors c'est très discret. Vous êtes conseillère régionale, vous m'avez fait passer un peu un CV dans lequel il y a beaucoup de choses sur vous, sauf une seule chose, c'est le conseil régional. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas noté. Donc c'est une discrétion, une pudeur que je salue, mais bon, on va quand même beaucoup parler de notre région aujourd'hui. Donc comment les hommes vous voient ? Est-ce que c'est... Ces élus, ces hommes élus, vous traitent d'égal à égal
Ils nous traitent d'égal à égal. Ils sont forcés de le faire, de toute façon.
Donc,
parce qu'il y a une parité.
Ils se forcent.
J'espère que non. En tous les cas, moi, de mon côté, vis-à-vis des hommes, je suis l'égal de tout conseiller masculin. Je n'ai pas à me dédouaner d'être une femme. Je n'ai pas à me... à me sous-estimer parce que je suis une femme.
Est-ce que c'est...
Et je m'affirme en tant que femme politique et en tant que conseillère régionale vis-à-vis des conseillers régionaux masculins.
Est-ce qu'il y a parfois des réflexions sexuelles ? On a vu qu'à
l'Assemblée... Aucune.
On a entendu... Alors, on est parfait par rapport à notre Assemblée nationale parce qu'on sait qu'à l'Assemblée nationale, Dieu merci, beaucoup s'en sont fait l'écho, canard enchaîné aussi d'ailleurs. On sait qu'il y a parfois des réflexions, des cris d'oiseaux, des différentes choses qui partent des travées des députés. Ça semble quand même pas tout à fait être aussi onirique qu'au Conseil régional d'Occitanie.
Alors au Conseil régional, ce que nous pouvons entendre ne vient pas des élus de la majorité, bien évidemment, ni ils viennent essentiellement du groupe Front National. Voilà. Eux sont toujours dans des provocations.
Pourtant, ils ont une présidente femme.
Enfin, ils ont une présidente
elle a l'air d'être
femme,
une femme.
Qui ne... Oui, elle a l'air. Ça n'engage que vous. Mais
tout le monde peut le voir des visus. Après le reste, je ne sais pas.
Je pense qu'ils sont dans la provocation, dans des discours haineux, dans des discours irrespectueux.
Mais on peut être haineux, mais pas forcément à l'égard des femmes. Il y a des femmes au Front National aussi. Pourquoi serait-il haineux par rapport aux femmes, à votre avis ?
Par rapport à nous, femmes de la majorité, ils le sont.
Vous voulez dire qu'ils sont haineux par rapport à tout le monde, mais quand c'est des femmes, c'est plus directement ciblé ?
Complètement.
D'accord.
Complètement.
Voilà. Ils sont nombreux, le Front National ?
Ils sont 40 sur 158. Donc... ils sont importants. C'est le deuxième groupe politique du conseil régional.
Et le premier étant ?
Le groupe SRC, le groupe socialiste républicain.
D'accord.
Les citoyens.
Alors, il y a cette histoire de salaire. On a dit ce qu'il fallait en penser en politique. Après, il y a tout ce qui a agité les femmes ces dernières semaines. Quelle est votre vision de ce type de problématique ? Bon, on le sait, hein, on s'est beaucoup exprimé à ce micro. Vous avez vu un peu la tendance de mon éditorial. Il était à peu près du même tabac, le mien et celui de mes camarades de micro, sur cette question. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir un jour, je ne vais même pas dire la régler, est-ce qu'on va pouvoir un jour la faire avancer positivement ?
Moi, je regrette déjà qu'au XXIe siècle, on soit toujours sur cette question-là.
On ne l'a pas réglé, tant qu'on ne l'aura pas réglé, on y sera.
Complètement. Et cette actualité qui concerne aujourd'hui le monde du cinéma et puis d'autres domaines aussi, je suis surprise qu'on découvre tout cela aujourd'hui. Et je pense que les femmes ont un devoir, quel que soit le harcèlement qu'elles subissent. C'est-à-dire que quand il y a harcèlement, il faut qu'elles portent plainte tout de suite et ne pas attendre. Je trouve que les femmes attendent de trop. Alors, il y a des cas, bien évidemment, par rapport aux violences faites aux femmes, tous les cas sont particuliers. Je ne jette la pierre à aucune femme. Chaque situation est particulière et il ne faut pas... Mais il faut les pousser, il faut les encourager, j'ose dire, à ce qu'elles parlent.
Il faut aussi que... Parler, c'est une chose, il faut être écouté. Trouver des gens pour et vous écouter. Et puis derrière, que cette parole, que cette plainte éventuellement se transforme en quelque chose. Est-ce que c'est le cas ?
Pas assez, malheureusement.
Parce qu'on dit, on ne découvre rien aujourd'hui. On a toujours su... Il y a une espèce de fatalisme.
La parole est difficile à prendre. Les femmes qui subissent des violences sont souvent tellement affaiblies parce qu'elles subissent qu'elles n'osent pas d'abord aller parler. Ne serait-ce qu'à sa propre famille, qu'à ses proches, pour que ça fasse un petit peu levier, elle n'y arrive pas. C'est pour ça que c'est compliqué et je dirais qu'il y a des acteurs locaux un petit peu partout qui pourraient créer cette passerelle entre et la femme qui subit des violences pour les pousser à porter plainte, pour les pousser à évoluer là-dessus.
Oui, mais on dit tout ça, mais on le dit depuis des années, ce genre de choses. Rien n'avance. Alors aujourd'hui, on en a une qui a été peut-être plus courageuse, plus inspirée ou qui était dans l'air du temps. Et puis surtout, il y a les fameux réseaux sociaux. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on y trouve tout et son contraire. On y lit beaucoup de bêtises et on est quand même un peu méfiant parce que c'est facile un peu de jeter un homme ou une femme au chien. Personne ne peut le vérifier. Tout le monde s'excite. Le soufflet va vite retomber, vous ne pensez pas ? Ce n'est pas ce que je souhaite, soyons clairs.
Je garde espoir, en tous les cas, que cette actualité fasse bouger les lignes et fasse prendre conscience aussi aux femmes qu'on peut aller s'exprimer, qu'on peut aller se confier pour pouvoir aboutir à sa liberté. Parce qu'en fait, c'est sa liberté. C'est la liberté d'une femme qui est toujours mise en cause.
D'ailleurs, il n'y a pas que les femmes, on parle des femmes, mais il y a beaucoup de minorités. Bon, on ne va pas refaire le tour de la LGBT, mais à commencer par les propos homophobes qu'on entend un peu partout, c'est quand même totalement inadmissible, ce genre de choses.
Je suis bien d'accord avec vous. Et il faut...
Ah, ça faut doit commencer formes. Comme tout, peut-être au départ, et le départ, c'est l'école.
C'est
là que l'on mmh. forme les gens. Mmh. Est-ce que les instituteurs, je pense que, bon, on n'a oui. plus l'hussard noir dans la République, malheureusement, oui. loin de là, mais...
C'est l'éducation.
Est-ce qu'on parle de ce genre de choses dans les écoles ?
Dans les lycées, en tous les cas, avec notre plan d'action, on en parle.
C'est pas trop tard déjà, le lycée. Parce que les gens ne sont pas formatés.
Je vous parle
les
de nos compétences régionales, oui. mais vous avez raison, ça doit commencer dès l'école et peut-être dès la maternelle.
Est-ce que le parti est important, c'est-à-dire le parti politique, je veux dire, est-ce qu'il y a des partis plus vertueux que d'autres ? Je vous pose la question, j'ai ma réponse déjà, mais bon, c'est la vôtre que je veux entendre. On dit toujours la gauche, si la gauche, là, parfois on a vu ce qui s'est passé quand même dans les syndicats étudiants de gauche, c'était pire qu'ailleurs ou pareil qu'ailleurs. Est-ce que ça vous semble normal ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des partis qui se doivent d'être plus vertueux que d'autres du fait des idées qu'ils portent ?
Je ne sais pas. Enfin, sur certaines idées, je pense que les partis peuvent s'accaparer du sujet. Il n'y a aucun problème sur l'égalité femmes-hommes, sur d'autres questions également. Il n'y a pas un parti qui pourrait s'approprier telle ou telle idée. Moi, je me sens bien dans mon parti, qui est le Parti Socialiste. Et
vous êtes à l'aise, là, maintenant. Vous pouvez vous étendre. Mais on va y venir. Non, je plaisante. Je vous titille. Nous allons y venir tout à l'heure. Rassurez-vous.
Il n'y a pas de problème. Donc, cette cause-là, elle est universelle. Il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas à se disputer telle ou telle thématique. On porte des valeurs et on porte cette idée-là aussi.
Donc, quelles que soient finalement les valeurs, la réaction des uns et des autres, même quand elles sont ignobles, on peut les trouver sur tous les échiquiers politiques.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on peut être aussi macho, voire homophobe à gauche qu'à droite.
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que... Enfin, moi, je parle de mon parti et puis des gens que je connais, ils ne sont pas là-dessus. Ils ne sont pas là-dessus. On applique la parité, on a du respect, voilà.
Bon, il suffit de courir, s'inscrire au Parti Socialiste, alors je comprends. Revenons.
Je vous y encourage.
Revenons à notre région. Alors, vous parliez des compétences de la région. Mmh. Rappelez-nous donc un peu quelles sont ces fameuses compétences.
Les compétences sont nombreuses. Il y a le développement économique qui définit l'orientation économique, qui accorde des aides aux entreprises, qui anime.
Aux radios notamment, certainement.
On y reviendra peut-être, ou on aura une discussion en aparté là-dessus. Il y a également le tourisme qui définit les objectifs de développement, qui coordonne les initiatives de promotion. Il y a l'aménagement des territoires, de tous les territoires, puisque nous avons des territoires ruraux, il ne faut pas les oublier, et bien évidemment des territoires urbains. Il y a les transports, parce que nous gérons les trains. On aménage également... Et on exploite les ports maritimes de commerce. On aménage et on entretient les aérodromes civils.
Je vous coupe, pardon, Rachida Lucado, mais les ports en Occitanie, on n'a pas des masques quand même. Si, on a quand même. Oui, les Pyrénées-Orientales qui ont de très jolis ports. Et puis il y a Sète aussi.
Sur lequel pour on, la nouvelle.
Oui, sur lequel voilà. on peut...
Je il y a le Parlement de la mer qui a été créé. Il y a le Parlement de la montagne.
Oui, on n'en parle pas beaucoup de cela, par contre.
Voilà.
Mais...
Il y a l'éducation et l'enseignement, ça c'est notre première priorité, et on construit, on entretient, on fait fonctionner les lycées, on établit un schéma prévisionnel également des formations, on est pour l'égalité des chances dans l'éducation, puisque cette année nous avons harmoniser les deux ex-régions que sont Midi-Py et Languedoc-Roussillon sur la carte jeune qui donne la gratuité des livres à tous les élèves, qui délivre des ordinateurs, qui crédite 20 euros pour l'achat de livres en librairie et une aide également au sport. Il y a également la formation professionnelle et l'emploi. Il y a l'environnement, l'énergie, il y a le logement et l'habitat, puisque nous participons à la rénovation des logements sociaux. Il y a également la culture, parce que nous gérons également le patrimoine culturel, les musées régionaux. Il y a également la compétence au niveau sportif et la santé et le social.
Ben voilà un beau programme. Alors, ce rapprochement des deux régions, ça doit être extrêmement compliqué. Est-ce que ça n'a pas fait un monstre un peu ingérable ?
Ingérable, non. C'est une richesse, c'est des régions. C'est...
Oui, mais est-ce qu'on a l'outil aujourd'hui ? Est-ce qu'on a pu harmoniser les deux outils qui n'avaient pas forcément la même culture ?
Effectivement, vous avez raison. On n'a pas la même culture. Mais je dirais que les cultures font la richesse. Et aujourd'hui, cette région Occitanie est une richesse. Ce sont deux ex-régions qui se complètent et qui se sont enrichies de ce fait-là.
On n'essaye pas un peu de tirer la couverture quand on est à Toulouse ou quand on est à Montpellier ?
Non, absolument pas.
Non ?
Absolument pas. Non, non.
C'est harmonieux, alors ?
Complètement. Et c'est vrai que
nous avons travaillé... Mais le bilan carbone de la fusion n'est peut-être pas excellent parce qu'on se déplace beaucoup.
Il y a la visioconférence qui fonctionne beaucoup.
Oui ?
Oui, énormément. Énormément. On n'a pas besoin d'aller à Montpellier pour telle ou telle réunion. La visioconférence fonctionne et c'est heureux. Et tout va bien.
L'Assemblée régionale, vous avez dit tout à l'heure, 158 oui. personnes. Et vous citiez les chiffres du FN. Je pense qu'ils sont peut-être un peu plus d'origine...
Ils sont 40.
Ils sont une quarantaine, oui, mais peut-être ces 40-là sont élus plus du côté de la région qui nous a rejoints ou que nous avons rejoints. Je ne sais pas comment il faut le dire.
Vous avez raison.
Ce sont des territoires
Ce
un peu plus...
Ce sont des territoires qui sont préoccupants.
Je ne sais pas s'ils sont préoccupants, mais...
Et si, quand on voit les scores que peut faire le FN, oui, c'est préoccupant. Pour moi, en tous les cas, ça l'est.
Mais est-ce qu'on est allé vers ces territoires ? Est-ce qu'on sait pourquoi ces gens ont voté pour un parti extrême ? Aux thèses dont on sait parfois qu'elles sont quand même relativement fumeuses.
Il y a toujours la question dans ces départements de l'emploi, hein, comme ailleurs, mais peut-être un petit peu plus là-bas. Il y a le problème de ce que portent certains élus, comme M. Ménard à Béziers. Il y a Perpignan.
Je ne sais pas ce que porte M. Ménard. J'ai l'impression qu'il porte la discorde plus qu'autre chose.
Voilà.
Non
il y a les Pyrénées-Orientales. Il y a plusieurs départements où, effectivement, l'emploi, la problématique de l'emploi est certaine. Et donc, là... Voilà, le raccourci des fois le plus court semble ce vote-là. Il y a l'immigration, et puis l'immigration, de toute façon, a été un sujet...
Il y a peut-être aussi un personnel politique qui s'est un peu affaibli sur le plan de l'éthique. Non, quand on voit, par exemple, la mairie de Perpignan, tiens, on a M. Alliot qui la guigne et qui, un jour ou l'autre, finira peut-être par l'avoir. Et s'il l'a, il faudra regarder pourquoi il l'a eu. Peut-être que la place était à prendre.
Justement, on se doit de travailler sur ces territoires-là pour faire barrage au FN.
Il y a du travail.
Et il y a beaucoup de travail. Mais c'est ce que les politiques... Vous savez, la politique, moi, je la considère au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire que politique, c'est s'intéresser à sa cité, s'intéresser aux gens. Et un élu, quel qu'il soit, un militant politique aussi, doit se pencher vers l'autre. Et ce n'est pas à l'autre de se pencher vers lui. Et il me semble que ça, si les politiques comprennent ça, se pencher, écouter, peut-être qu'on arrivera à faire barrage à ce FN. Voilà, qu'on change nos pratiques, c'est indispensable.
J'ai vu que notre présidente s'était fait un peu remarquer en allant arracher le micro, en descendant, en allant dans l'arène pour arracher le micro à un élu FN.
Alors, pour comprendre ce geste-là,
oui, ça avait un peu surpris parce que
il fallait être présent parce que les séances de l'Assemblée plénière sont diffusées en direct. Et je comprends ce geste. Moi, j'aurais été plus loin.
Voilà. Bon, nous ne serons pas. On verra quand vous serez présidente, Rachida Cazo. Ça arrive des fois très vite. On fait une première pause musicale. Qu'est-ce que vous nous avez choisi ? Vous êtes venu avec un CD ?
Oui, j'ai choisi un morceau très personnel qui s'appelle Viva la Vida de Coldplay et qui me ramène au souvenir de mon papa. Voilà, tout
voilà ben, la Madeleine de Proust de Rachida Lucaso en musique. Thank you. Vive la vida, le choix de notre invité de ce jour, Rachida Lucaso, conseillère régionale. Alors, l'autre, nous avons une présidente, on le disait, comment elle est notre présidente? Vous n'allez pas m'en dire du mal, j'en suis sûr, mais enfin, est-ce qu'elle est accessible? Est-ce qu'elle écoute? Ou est-ce qu'elle fait service minimum à ce niveau-là? Au moins ses collègues élus?
Nous avons une présidente extraordinaire.
Elle a un bel accent, en tout cas.
Elle est de Martre-Tolosane.
Oui, on l'entend.
Ça, vous le savez. Qui jalonne la région tous les jours, qui est à l'écoute, qui est humaine. Et c'est pour ça que j'ai envie de vivre cette aventure avec elle et derrière elle.
Ça n'aurait pas été elle, vous ne seriez pas allée?
C'était elle et j'y suis allée.
Alors justement, vous y êtes allée récemment. C'est votre premier mandat?
C'est mon premier mandat.
Pourquoi ce choix?
J'ai adhéré en 2002 suite à l'électrochoc Chirac-Le Pen. C'est là où j'ai décidé de m'engager politiquement. C'est lorsque mes enfants se sont retournés le soir du premier tour et m'ont dit « Mais maman, ils pourraient te renvoyer chez toi ». Et c'est vrai que c'est ce qui a causé mon adhésion au Parti Socialiste.
On n'en était pas là quand même. Hein. On n'en était pas là.
Effectivement.
Il y a beaucoup de juges en France.
Mais de la part de... C'était des mots d'enfants et ça, je ne l'ai pas supporté. Et je n'ai pas supporté que mes enfants puissent me dire « ils pourraient te renvoyer chez toi ». Parce qu'on avait eux expliquant quelques mots simples ce que représentait Le Pen. Et donc, tout naturellement, je me suis engagée au Parti Socialiste et j'ai toujours milité. Je me suis toujours battue collectivement avec les camarades sur diverses élections. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites, mais on a partagé tout le temps cela ensemble. C'est très formateur. Militer, ça ne s'apprend pas. Ça se... on le pratique sur le terrain. On apprend naturellement à le faire pour défendre nos valeurs, bien évidemment, pour aller à la rencontre des personnes, et puis pour essayer à ce qu'une liste où une candidate ou un candidat puisse accéder à un poste qui, pour nous défendre. Donc, jusqu'à présent, c'est ce que j'avais fait, c'est ce qui me porte, parce qu'avant tout, de toute façon, je serai toujours une militante avant d'être une élue. Et la décision d'être candidate sur la liste de Carole Delga, bien évidemment, c'est faite lorsque j'ai su que ça allait être une femme, et dans le cadre d'un renouvellement. Et je la remercie vraiment d'avoir fait de la place pour des militants et des militantes.
Oui, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'ici, mais c'est une autre histoire. Oui, on avait dû vous renvoyer chez vous. Il y a un autre qu'on aurait renvoyé chez lui. Là, dans le studio, il y a déjà 50% du studio qui sera amputé. Vous n'étiez pas la seule dans ce cas, et peut-être que nous, on serait partis aussi, d'ailleurs. Donc, il n'y avait pas de problème. Alors, ce mandat que vous avez, qui est tout neuf encore, vous l'avez quand même bien rodé, on va dire, maintenant. Est-ce que vous regrettez d'y être allé ?
Absolument pas. Ça a été une joie, et c'est un engagement. Quand on est candidat, on ne doit pas décevoir et on doit travailler. Et c'est ce que je fais.
Est-ce qu'on n'est pas déçu parfois de la façon dont le travail qu'on fait, et je sais que vous et d'autres collègues à vous que je connais, faites un travail de terrain sérieux. Croyez à ce que vous faites, vous vous en donnez les moyens. Est-ce que c'est toujours bien compris et bien accueilli ? Est-ce que des fois, vous n'êtes pas déçu en disant « Mon Dieu, j'ai passé des soirées dehors, j'ai passé des week-ends, et puis finalement, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, et on n'a pas la considération que l'on penserait avoir ?»
Alors, avant toute chose, moi, je ne cherche aucune considération. Quand j'ai commencé mon mandat, le terrain, c'était la façon dont je voulais concevoir mon mandat, parce que je ne conçois pas de mandat dans un bureau. De toute façon, je n'aurai pas le temps, parce que je travaille en dehors de ça, parce que pour moi, un mandat politique n'est pas une profession.
Ils doivent être limités, ces mandats ?
Comment ?
Ils doivent être limités, ces mandats ?
Limités, c'est-à-dire en nombre ? Dans le temps, oui.
Dans le temps et en nombre, oui. Vous voterez donc la réforme de M. Macron ?
Qui c'est sur une durée de 3 mandats, il me semble.
Je crois que c'est ce qu'il dit, oui.
Oui, sans problème. Donc, je l'ai envisagé comme cela, et les moyens que j'ai, c'est le temps, sur mes week-ends, sur mes soirées, et puis quand je dois partir de mon emploi, eh bien, je le fais, je m'absente. Et ce que je disais, je ne cherche pas de considération. Je cherche à créer un lien avec les citoyens, à les écouter, bien évidemment, à pourquoi pas être une passerelle aussi entre eux et puis peut-être leurs problématiques, d'essayer de faire levier sur certaines choses. Donc, j'ai pris ma place. Et en 2 ans, je pense que voilà, on commence à me contacter tout naturellement, à m'interpeller aussi, et je suis là pour ça, de toute façon.
Quel est votre secteur d'intervention ?
Mon secteur d'intervention, bien sûr, on est conseillers régionaux, donc on n'a pas, la région est grande. Nous sommes élus de la Haute-Garonne, donc nous nous déplaçons lorsqu'il y a besoin de représenter la présidente sur diverses manifestations. Et elles sont nombreuses, elles ne peuvent pas être partout, donc nous l'aidons en cela. Et alors, je suis présente bien évidemment sur ma commune de Tournefeuille. Et dès mon élection, j'ai choisi de travailler entre guillemets, d'aller voir les habitants des quartiers du Mirail.
Voilà. Un sacerdoce.
Alors je ne suis pas, je m'appelle Rachida Ouké, tout va bien, mais je suis une citoyenne, je ne suis porte-drapeau d'aucune communauté. Mais il me semble qu'on a trop délaissé ces quartiers-là pour pouvoir encore s'absenter. Et il faut prendre sa place et il faut qu'il trouve des personnes à qui parler aussi.
Comment êtes-vous reçu là-bas ?
Sans aucun problème. Depuis 2 ans maintenant,
Ils vous connaissent
un peu à être connus, oui.
Et ils pensent que voilà. Vous pouvez les aider.
Ça, l'info circule très vite.
Oui, l'info là-bas, oui, dans ces quartiers,
ça circule très vite.
On sait de suite qui vous êtes. Mais est-ce qu'ils vous accordent du crédit? Autrement dit, est-ce qu'ils pensent que vous pouvez faire des choses pour eux? En dehors de les écouter.
Je pense que j'en fais des choses pour eux. C'est-à-dire que par rapport aux subventions qu'ils peuvent percevoir, par rapport à des actions, on peut toujours les aider. Et c'est ce que je fais.
Mais les subventions, ça ne suffit pas. Un précédent maire de Toulouse
les
a considérablement arrosées en termes de subventions, peut-être un peu pour se faire une clientèle à la romaine. On ne peut pas dire que les résultats étaient là. Enfin, en tout cas, peut-être au niveau de l'élection, mais certainement pas au niveau de ces quartiers. Il faut aller vers ces gens, il faut travailler avec eux.
Je ne dis pas que les subventions sont le premier facteur de reconnaissance, loin de là. Moi, quand j'y vais, on ne me parle pas de subventions.
Qu'est-ce qu'on vous demande ?
C'est sur des actions ponctuelles. Ils doivent remplir des dossiers. Les associations savent ce qu'elles ont à faire. Ce que demandent les personnes et les associations, c'est le soutien. Le soutien et puis le partage de leurs actions. Il y a quelque temps, une association, en partenariat avec d'autres, m'a invité à participer à l'occupation d'espaces publics sur le quartier de Bellefontaine, et j'y suis allée. Et cette action-là avait pour objectif de déranger les dealers qu'il y a sur ces quartiers, parce que vous le savez comme moi, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chiffres d'affaires qui se fait sur ces quartiers-là. Et j'ai participé à cette action toute la matinée. J'étais présente, j'ai parlé avec les habitants, les habitantes, et parce que les habitants n'osent plus sortir de leur appartement pour justement occuper ces espaces publics. Et ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils se sentaient soutenus.
Bah, disons qu'ils ont eu, un peu de bombe, mais après le résultat, on a toujours des dealers dans la rue, on a toujours...
Mais les résultats, c'est... Alors si on ne fait rien, voilà, qu'est-ce qu'on fait ?
On peut dépénaliser peut-être.
Ça, c'est une autre question qui mériterait
plusieurs heures de débat, à ce micro avec des gens plus avertis peut-être que nous.
Ce qui se vend aujourd'hui, ce n'est pas forcément que de l'herbe. Je dirais que c'est quand même des produits un peu plus costauds qui se vendent. Donc là, c'est une autre question. Mais ce qu'attendent donc ces personnes et ces associations, c'est juste un soutien et puis une certaine reconnaissance. Je peux vous assurer que dans ces quartiers, les femmes sont très importantes. Moi, je pense que les femmes peuvent créer quelque chose dans ces quartiers par leurs actions, avec les associations, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la création d'événements, tout simplement, pour faire vivre leur quartier. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui sont menées. Et ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'on relate ce qui est très négatif. Quand il y a eu ces tueries, ces assassinats l'année dernière, on ne relate en rien de ce qui se fait de positif.
Ah oui, on parle toujours.
Et ça, c'est très, très regrettable. Voilà.
On est d'accord.
Et j'aimerais que les médias se déplacent pour voir ce que font les assos et qu'ils ne se déplacent pas quand il y a le ministre de l'Intérieur qui se déplace comme vendredi dernier et qui a tenu les citoyens à l'écart.
Ah, le ministre de l'Intérieur est un grand démocrate, nous le connaissons un peu, nous le brocardons régulièrement ici. Rachida Kadou, vous êtes encartée au Parti Socialiste, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes même d'ailleurs, je crois, secrétaire de votre section. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'une section, ça rassemble un...
Voilà, les camarades de Tournefeuille. Voilà, je suis
militants.
Secrétaire de section de Tournefeuille.
Bon, il y en a beaucoup encore de camarades à Tournefeuille. Autant. Alors,
moi, je peux vous assurer que sur ma section qui compte...
C'est un drôle de nom, section, ça fait un peu militaire.
Ah, c'est comme
quand
ça
même.
Qu'était... Ouais, ça a été défini bizarre. Comme ça. Il y a 82 militants. Et pour le moment, je n'ai à déplorer aucune démission.
82 sur Tournefeuille qui compte combien d'habitants ?
26 000.
Oui, je ne sais pas. On va dire, vous voyez, très majoritaire. Donc, ça veut dire qu'il y a 82 personnes qui s'investissent déjà en politique, ce qui est bien, parce que c'est un effort aussi. Et pour le Parti Socialiste, c'est pas colossal, non?
C'est-à-dire pas colossal?
Bah, c'est un peu maigre.
Sur la Haute-Garonne, nous faisons partie d'une des plus grandes sections
avec
Colombier.
C'est bien ce que je disais, le Parti Socialiste n'est pas un peu en déshérence, non, vous croyez?
Le
Parti
Socialiste...
Vous ne croyez pas qu'il s'est un peu oublié, qu'il a oublié ses fondamentaux, qu'il a oublié ses valeurs, qu'il a oublié...
On va y venir, le Parti Socialiste...
Il y a un très joli petit livre d'Edgar Morin, donc, que je vous recommande, qui est sorti il n'y a pas si longtemps là-dessus, où il a interpellé un peu le Parti Socialiste.
Le Parti Socialiste a pris... On ne va pas oublier les résultats l'année dernière sur les présidentielles, enfin d'abord sur les primaires, après sur les présidentielles et après sur les législatives. Et il y a eu, je crois qu'il y a eu un ras-le-bol de la part des Français vis-à-vis des partis politiques et puis qu'il y avait un petit mouvement qui se créait, un petit au départ, et qui a grandi et qui est arrivé au pouvoir l'année dernière. Mais je pense que peut-être qu'il fallait ces défaites pour nous remettre en question. C'est toujours bon de se remettre en question.
Vous êtes partisan de la saignée, alors, comment autrefois ?
Pour remettre en question nos pratiques, pour remettre en question notre fonctionnement. Et je pense que peut-être que cela était nécessaire.
Ah oui, c'est sûr qu'on a fait table rase, on va pouvoir reconstruire. Mais il ne faudra pas prendre les mêmes.
Hein. Et j'ose espérer que le Parti Socialiste... Mais j'en suis sûre, le Parti Socialiste... La rose n'est pas fanée, croyez-moi. Elle a toujours ses pétales et ses épines.
Vous trouvez que la présidence de M. Hollande a fait du bien au Parti Socialiste ?
Je ne vais pas faire le bilan du quinquennat. Il y a eu des choses maladroites, mais il ne faut pas oublier aussi ce qu'il a fait. Moi, je pense qu'on l'a beaucoup critiqué... Sans retenue, et ce quinquennat a été jalonné malheureusement d'événements dramatiques qui ont frappé
comme
notre pays.
À peu près
pays.
Tous, hein. Sarkozy n'a pas connu mieux, ses prédécesseurs non plus.
Certes, mais voilà, je ne tirerai pas boulet rouge sur François Hollande, loin de là.
Ce n'est plus utile là où il est, de toute façon.
Voilà.
Vous trouvez que les partis sont encore des machines qui produisent des idées ou ce sont uniquement des machines électorales ?
Non, là, je pense que j'en reviens sur l'état de notre parti aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé, et notamment avec la Fédération de la Haute-Garonne sous l'impulsion de Sébastien Vincini. On a travaillé sur des ateliers de la refondation et ça, on a laissé place aux militants. Ce que je disais tout à l'heure, notre fonctionnement était très critiqué et aujourd'hui, les militants ont pris place.
Voilà. Ils ont un peu poussé dehors quelques barons locaux qui étaient satisfaits, ça, peut-être un peu repus, non ?
Ça, je ne sais pas, mais il fallait.
Vous avez dû le voir, quand même,
il fallait de toute façon. Mener ces ateliers-là, participer à ces ateliers-là. Et nous sommes sur une phase, bien évidemment, de reconstruction.
Alors,
allons rentrer dans le cadre du congrès.
Oui. Vous avez vu qu'il y a 4 prétendants, j'ai cru voir. Des prétendants anciens, donc, qui peut-être par pudeur devraient se retirer. Puis des têtes un peu plus nouvelles. Il n'y a pas de femmes, c'est normal.
C'est regrettable.
C'est un euphémisme.
J'aurais bien aimé qu'il y en ait une, au moins.
Comment vous l'expliquez, ça, qu'il n'y ait pas de femmes ? Il n'y a pas de figure socialiste féminine. On a connu quand même. On a connu Martine Aubry, qui à une époque a un peu dirigé le PS. Après, on a eu Madame Hollande ou Ségolène Royal.
Oui.
Mais depuis, on ne voit pas quand même grand-chose. Alors qu'on dirait qu'à droite, il y a quelques femmes de droite qui sont un peu plus. À Paris, sont un peu plus actives.
Mais peut-être que ça va venir. Voilà, il faut laisser le temps au temps.
Vous êtes optimiste.
Je le suis, oui.
Vous êtes optimiste naturellement, ça on l'a compris, parce que sinon
non,
on ne connaît pas ce que vous faites.
Non, je ne suis pas optimiste naturellement. Je garde toujours espoir, de toute façon.
Vous pensez qu'aux prochaines élections, il pourrait y avoir une candidature, il y en aura toujours une candidature socialiste, mais une candidature socialiste sérieuse avec quelques chances de réussir. C'est un peu tard déjà pour prendre le départ d'une présidentielle.
Pour quelles élections ?
Les prochaines élections présidentielles, après le mandat du président Macron.
Pourquoi pas ?
C'est un peu court hein, pour former un candidat, l'imposer et puis
c'est
surtout
un peu court.
Avoir un
Mais il
programme.
Nous reste encore quelques années de travail devant nous et pourquoi
Donc
pas,
vous êtes en train de nous dire que le président Macron fera un deuxième mandat.
Ah, absolument pas. Absolument pas.
Vous ne le souhaitez pas ?
Je souhaite qu'on puisse, que les Français puissent avoir une alternative face à Macron.
Vous trouvez
et j'espère que cette alternative sera la gauche.
Vous trouvez
et
que
le
ce
Parti
n'est pas
socialiste.
Un homme de gauche ou une politique de gauche qu'il mène ?
Absolument pas. Comment on peut parler d'une politique de gauche quand on supprime l'ISF, quand on augmente la CSG pour des petits retraités? Vous savez, je participais un petit peu à la campagne de Joël Aviragnet, quand même, dont il faut parler puisqu'il est en tête sur la partielle de la 8e circonscription. Ce qu'on entend sur les marchés, il n'est pas arrivé premier hier pour rien. C'est-à-dire que les Français aujourd'hui, je pense, ont compris ce que Macron faisait et l'opposition qu'il peut faire entre les uns et les autres, c'est-à-dire entre une classe aisée et une classe qui l'est beaucoup moins.
Rachida Lucrezo, est-ce que c'est aussi manichéen que ça ? Président des riches, oui. Bon,
Là, le constat, il ne peut être que très clair. Pour moi, il est très clair. Quand on agit ainsi, c'est que... C'est une politique de droite.
Ah, il a fait des choses
aussi.
Ce
n'est pas une politique pour tous, aujourd'hui.
Prenons la SNCF. Ça vous choque de réformer la SNCF aujourd'hui ?
Il y a peut-être des points à revoir. Je ne connais pas cette thématique en particulier. Peut-être qu'elle.
Vous allez devoir la connaître parce que vous, conseiller régional, les petites lignes, ça va vous concerner directement.
Aussi, mais il faut regarder. Moi, je ne suis pas anti-réformiste, loin de là. Mais il faut regarder point par point ce que ça peut apporter.
Alors, les statuts des cheminots dont on parle beaucoup, mais à mon avis, ce n'est pas forcément le principal problème de la SNCF aujourd'hui.
Ça l'est quand même beaucoup.
Oh, attendez, est-ce qu'il a été fait, ce statut ?
Il y a très longtemps, je présume, mais il s'appliquait au personnel qui chargeait les machines en charbon.
Il s'appliquait en 1920, il a été fait pour... À l'époque, il n'y avait pas de SNCF, et donc on a voulu créer, je crois, cette compagnie. Et il y avait des compagnies privées, donc pour recruter, pour attirer du personnel, on leur a donné un certain nombre d'avantages. Vous croyez que c'est bien raisonnable, un siècle après, alors que la vie a totalement changé, de maintenir ces avantages qui coûtent extrêmement cher à la SNCF et qui se réévaluent en plus tous les ans? Est-ce que c'est normal? Je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse, mais je vous le demande.
Je ne sais pas non plus. Il faut voir les conditions de travail aujourd'hui des conducteurs de train, quelles sont leurs... la fréquence.
Vous savez, elles sont pas plus. Il y a des métiers qui sont beaucoup plus durs que conduire une locomotive.
Je le sais.
Et qui sont bien moins protégés. On a vu nos agriculteurs venir ici. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec leur manière de manifester.
Moi
et surtout avec la FNSEA qui portait le drapeau. Mais bon, ils ont une vie qui est infiniment plus complexe. Ils sont bien moins payés et ils n'ont aucune garantie. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu indécent de parler, de soutenir un combat pour un statut qui est centenaire et qui n'est plus en phase avec la vie d'aujourd'hui, avec l'économie d'aujourd'hui, avec ce que va devenir cette compagnie aussi?
C'est pour ça que je vous disais qu'il faut voir cette réforme qui concerne la SNCF, il faut étudier tous les points. Effectivement, le statut du cheminot n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on conduit un train avec quelques boutons. Enfin,
on ne charge plus le charbon.
Et on ne recharge plus
le
charbon.
La bête humaine, dont certains se souviennent peut-être, c'est terminé.
Tout à fait. Je comprends ce que vous voulez dire. Donc, peut-être qu'il faut aller vers... Mais soyons attentifs aussi.
Le nucléaire, qu'est-ce que ça représente pour le Parti socialiste ?
Le nucléaire, c'est un sujet qui a été longuement débattu et Ségolène Royal portait quand même certaines idées là-dessus. Aujourd'hui, je pense qu'il est difficile de s'en passer du nucléaire, donc je ne sais pas après ce qui sera porté et ce qui sera défini en matière de politique nucléaire. Il faudra trouver de toute façon une issue à ce domaine-là.
Les Verts, vous avez des rapports avec eux, avec le Parti socialiste ?
Ils font partie du groupe majoritaire.
Oui, ils font partie du groupe majoritaire. Oui. Mais est-ce qu'il y a des alliances possibles ? Est-ce qu'on a un discours un peu commun ? Est-ce qu'on partage une analyse ?
Au niveau de la région, oui, complètement.
Oui, au niveau de la région,
oui. Après, je ne sais pas ce que représentent les Verts aujourd'hui.
Comme d'habitude, peu.
Voilà, on n'est pas... Après, je ne... Mais bon, il faudra voir. Eux aussi doivent se reconstruire aussi, peut-être.
Comment le Parti socialiste aujourd'hui, enfin au moins dans ses ateliers, qui sont donc la refondation, on doit parler de quelque chose qui aujourd'hui agite tout le monde, ce sont les migrants. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Les migrants, oui. Pour le Parti socialiste aujourd'hui, comment ils voient une politique migratoire à définir aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a fermé la porte, c'est niet, personne ne rentre.
Et c'est ce qu'on regrette.
Voilà, mais
c'est ce qu'on regrette aujourd'hui.
Le président Macron a dit l'autre jour, il semblait une analyse un peu peut-être étroite, voyant les résultats des élections en Italie, a dit, regardez, la politique migratoire. Bon, c'était peut-être désigné un bouc émissaire commode, parce que le problème de l'Italie est beaucoup plus important et diversifié que ça. Mais est-ce que le Parti socialiste est à même de proposer aujourd'hui des solutions face à cette vague migratoire?
Nous, on critique cette position et dernièrement, il me semble que Gérard...
Que vous la critiquez, je suis d'accord, mais est-ce que vous avez quelque chose
Gérard
à apporter?
Colomb
il est collant aussi, un peu, oui, vous avez raison.
Mais il a déclaré qu'il ne faudrait pas créer un appel d'air. C'est-à-dire que, moi, le mot migrant, je suis un peu... Ce sont des réfugiés pour moi, ces personnes-là. Donc, nous, bien sûr, on condamne ce qui est en train de se faire, parce qu'en plus, on parle de bons migrants et de mauvais migrants. Aujourd'hui, il y a très, très peu de communes qui accueillent les migrants. On est en capacité d'accueillir ces personnes-là qui traversent des routes incroyables dont je vous parlerai justement d'un jeune réfugié tout à l'heure, peut-être. Et je pense qu'avec les acteurs locaux, avec toutes les institutions, nous sommes capables d'accueillir des réfugiés en France.
Que vous le pensez, on connaît les moyens, c'est sûr.
Voilà.
Que vous le pensiez, je le crois volontiers. Mmh. Est-ce que des caciques du Parti socialiste ou des dirigeants, pour employer un mot peut-être plus agréable pour eux, du Parti socialiste, pourraient tenir ce discours aujourd'hui? Quand on voit que Mme Merkel, elle est tombée un peu en Allemagne à cause de ça, quand on voit que le Brexit, ça les inquiétait beaucoup, donc ils ont préféré essayer de faire sécession parce que ça leur coûte, quand on voit que l'Italie, même si ce n'est pas la seule raison, mais le problème migratoire a beaucoup joué, au moins dans le sentiment europhobe qui est celui des Italiens autrefois alors qu'ils étaient très europhiles, est-ce que vous pensez que ces vendeurs, si vous me passez l'expression, d'aller politiquement annoncer un soutien aux immigrés, aux migrants, aux réfugiés, à tout ce que vous voulez?
Est-ce Mais que je c'est pense que ça fait partie de nos valeurs, tout simplement.
On est d'accord.
Tout simplement, on n'a pas à se poser la question sur ce type de sujet. La région Occitanie a été terre d'accueil. La France doit être terre d'accueil.
En 1939, elle l'a été, voilà. 500 000 personnes en 15 jours.
Mais nous devons d'accueillir ces personnes-là. Elles connaissent des guerres, des familles arrivent, elles connaissent des guerres, elles connaissent la misère, elles sont dans une détresse terrible. On ne peut pas les laisser mourir comme on est en train de le faire.
Alors poursuivons là-dessus, parce que l'heure avance malheureusement rapidement, et je le regrette, mais peut-être que vous nous donnerez l'occasion de revenir pour poursuivre. Mais séquence littéraire. Qu'est-ce que vous nous avez choisi comme livre? Je sais que vous allez un peu prolonger ce que nous étions en train de dire.
Oui, parce que en 2017, j'ai rencontré un jeune qui s'appelle Kwame Sunguan. Je l'ai rencontré parce que j'ai visité l'école de production de l'ICAM, qui est une école de production qui forme les jeunes qui sont en décrochage scolaire ou qui peuvent être réfugiés également. Et j'ai rencontré ce jeune garçon qui a écrit un livre, un petit conte sur son expérience, qui s'appelle « Le peuple des ombres, itinéraire d'un enfant migrant ». Et ce livre retrace ce qu'il a enduré suite à l'assassinat de ses parents. Et son récit commence par une phrase « Quand l'horreur force la porte de ton enfance, quand tout vient te réduire à néant, quand rien n'existe plus que le chaos, tu dois rester debout si tu veux vivre et marcher ». Voilà, moi, ce jeune, je l'ai rencontré, il m'a raconté son histoire. Il a traversé d'Abidjan, il est passé en Libye, il est passé au Maroc, il est passé à Madrid, où il est resté quelques mois. Et puis, il est arrivé à Bordeaux. Et puis, sur un coup de tête, il est venu à Toulouse. Il a été accueilli par un centre. Il a été accueilli par des éducateurs qui avec beaucoup de persévérance, l'ont accompagné à ce jeune. Ce jeune est arrivé à l'ICAM, à l'école de production, et il a suivi un CAP d'usineur. Et aujourd'hui, il travaille à Toulouse. Et c'est un livre que je recommande pour bien comprendre aussi les choses, parce que...
On va rappeler son titre, hein. Le peuple des ombres, itinéraire d'un enfant migrant. Et c'est de Kwame Soon Gwan. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Alors moi, je vais vous donner un autre conseil de lecture qui n'a rien à voir. C'est Jean Tellet, que vous connaissez peut-être, qui vient de sortir Entrer dans la danse, publié chez Julliard. Et il nous revient, c'est un auteur très original, au style enlevé. Vous vous souvenez de certains de ses ouvrages, tels par exemple Mangez-le si vous voulez, une histoire affolante en Suisse, ou Héloïse Houille, sur laquelle je ne m'étendrai pas. C'est resté dans nos mémoires comme des livres à la lecture particulièrement jouissive. Et alors, Tellet a l'art de raconter des histoires extraordinaires dont on se demande toujours où il va les pêcher. Et celle-ci, vous le verrez, ne fait pas exception à la règle. Alors figurez-vous qu'il est allé exhumer un événement des plus singuliers qui a eu lieu à Strasbourg en 1519, certainement d'ailleurs la plus ancienne des raves parties, si je puis dire. La chronique alsacienne de l'époque décrit la chose ainsi. Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans Strasbourg, de telle sorte que dans leur folie, beaucoup se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit pendant 2 mois sans interruption jusqu'à tomber inconscient. Beaucoup sont morts, fermez les guillemets de la chronique de l'époque. Alors je ne vous en dis pas plus, à vous de rentrer dans la danse, et je vous rappelle le titre, Jean Tellet, Entrer dans la danse, chez Julia. Et puis, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, mais je répéterai un certain nombre de fois, vous connaissez l'excellente hebdomadaire Le 1, hein, si ce n'est pas le cas, il vous faut le découvrir vite. Et si vous aimez, abonnez-vous, puisqu'il semblerait que ce journal indépendant se fasse un peu racketter par le distributeur Prestalis, pas le seul d'ailleurs, mais enfin, dans des conditions qui peuvent faire craindre pour sa survie. Alors, évacuons Prestalis et soutenons l'hebdomadaire Le 1 en s'abonnant. Voilà, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission, Rachida Lucaso. Donc, merci d'être venu au micro de Esprit Occitanie Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec aux manettes Jean-Louis Arzac, que je remercie. La semaine prochaine, on parlera la semaine prochaine avec les responsables de l'ASA, je ne sais pas si vous les connaissez, du maintien à domicile, du troisième, voire du quatrième âge et de bien d'autres choses encore. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Esprit Occitanie ainsi que sur le site de la station. N'oubliez pas, rediffusion de l'émission demain, mardi à 11h et certainement encore dans la semaine et dans le week-end. Qu'on se le dise, bonnes semaines à toutes et à tous. Adieu.